Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire le chapitre 3 dans la lettre aux Galates. Comme j'utilise la version Louis II 21, si vous voulez juste écouter, vous ne serez pas perturbé par la lecture. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins, c'est pour rien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut imputé comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit soit l'homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'applique pas sur la foi. La loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire « L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit Saint qui avait été promis. Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler, ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue, Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi, la loi survenue 430 ans plus tard ne peut l'annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. En effet, si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Un médiateur n'intervient pas quand il y a une seule partie. Or là, Dieu est seul. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Je dirais que la liberté, c'est la vie. Et nous pouvons dire finalement qu'aucune joie n'égale celle de se savoir pardonner, réconcilier avec notre Créateur, de se savoir aimé par ce Dieu Tout-Puissant qui est notre Père, et de se savoir aimé d'un amour inconditionnel. Nous sommes en tant qu'enfants de Dieu appelés à vivre dans la liberté. Une liberté que Christ nous a acquis à la croix. On a été affranchi de la loi, de sa condamnation, on a été lavé de notre péché. Et l'apôtre Paul dira aux Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant les graciés de Dieu. Et nous sommes, bien sûr, appelés à marcher dans la sanctification, mais en tant comme libres. Nous pouvons faire le choix de marcher dans la sanctification. Quand on regarde la vie de l'apôtre Pierre, on croit qu'il a compris la grâce, il a compris qu'il fallait marcher dans la sainteté, il a compris qu'il avait une certaine liberté parce qu'il a réussi à rentrer chez Corneille qui était un non-juif. Et un jour, il était en train de manger avec des chrétiens d'origine non-juif. Et il se sentait libre, là. Il était avec eux et tout se passait bien. Et tout d'un coup, il a quitté la table. Parce que des chrétiens d'origine juive sont venus, qui apparemment étaient assez légalistes. Et là, la vieille nature de l'apôtre Pierre a repris le dessus et il a quitté la table. Il a perdu la liberté qu'il avait. On sait tous qu'on est des hommes et des femmes libres. Je devrais dire libérés. Nous sommes des graciés. Il est bon de se rappeler que nous sommes des graciés. Mais il n'en reste pas moins que, bien souvent, la peur continue d'habiter notre cœur. La peur de vivre pleinement dans la liberté que Christ nous a acquis. Nous pouvons vraiment marcher dans la liberté, et nous pouvons vraiment marcher avec cette peur qui nous prive de la liberté que nous avons. Tout comme les Galates, on peut commencer à marcher pleinement dans la grâce, particulièrement au début de la conversion. On comprend la grâce, on comprend qu'on est libéré, on n'est plus sous la domination de la loi. C'est vraiment quelque chose de formidable. On apprend la marche par l'esprit, tout ça, c'est vraiment super. Et après, la liberté, quelque part, peut faire peur. Eh oui. Et assez rapidement, on peut se mettre sous la loi. Comme une sorte de protection. La loi du style, vous voyez, tant que je marche selon mes 10 commandements que je me suis fait, je suis vraiment saint, et là Dieu va me bénir. Le problème, évidemment, c'est le jour où j'enfreins un de ces 10 commandements que je me suis fabriqué, alors évidemment, il y a le sentiment de culpabilité qui s'installe. Il y a eu dans notre histoire de la Genèse, on connaît bien ça, Adam et Ève. Il est rapporté un dialogue entre Adam et Ève. Il est intéressant pour nous ce dialogue. Adam pêche en prenant le fruit interdit. La première chose qu'il va faire, hop, il va donc se fabriquer sa ceinture et il va aller se cacher. Et Dieu lui dit, où es-tu, Adam ? Moi, je trouve que la réponse est assez terrible. Hein. J'ai entendu ta voix. Hein. C'est pas que je t'ai vu arriver. Hein. C'est, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que j'étais nu, alors je me suis cachée. Et je peux vous promettre que cette peur, elle est dans le cœur de tous les hommes. Mais nous, en tant que chrétiens, on peut être libérés de cette peur. Vous voyez, je me pose parfois cette question. Est-ce que le pharisien légaliste qui dort en nous ne nous souffle pas de temps en temps à l'oreille « Fabrique-toi une ceinture avec des commandements que tu pourras respecter, cela va te donner de l'assurance. Tu pourras te cacher comme ça derrière. Et le Seigneur te verra, oh mais voilà quelqu'un qui a des commandements, qui obéit tout, et tu vas recevoir la bénédiction, et aux yeux des autres frères, tu vas paraître pour être un bon chrétien. » Parce que ce que pensent les autres de nous est tellement important. Est-ce que le fait de dépendre du regard des autres est un signe de liberté? Est-ce que vous pensez que vous dépendez du regard des autres ou pas? C'est intéressant d'être à la chair et de voir les têtes que vous faites. J'espère que je ne vais pas me faire lapider, mais... Mais je me pose la question, si mon attitude dépend du regard des autres, ben je ne suis pas libre alors. Donc je me mets une loi, je dois faire attention au regard des autres, donc je dois avoir telle attitude, et si Jean-Pierre fait ça, je suis sûr que vous ne verrez pas beaucoup de prédicateurs faire ça. Mais vous pensiez que je suis gonflé ou pas, ça ne dérange pas, je pense à vraiment chaud, il faut que j'arrive mon cul. Si à la fin de la prédication, vous avez retenu uniquement que Jean-Pierre a enlevé son pull, posez-vous des questions. Pourquoi ? On peut se cacher derrière cette manière de penser que je vous ai décrit. Voilà, j'ai ma loi, j'obéis, Dieu va me bénir, j'aurai une bonne bien vue, je serai bien vu par les autres. Mais seulement le problème, c'est qu'il va y avoir plusieurs conséquences à cela. Et la première qui me semble évidente, et que l'apôtre Paul se bagarre pour ça, c'est que je vais me priver de la grâce de Dieu. Ça ne va plus être un salut uniquement par la grâce, mais ça va être un salut double. En fait, je vais prêcher, oui, je suis sauvé par grâce, mais après, il faut quand même que j'obéisse au commandement. Parce que dans la lettre aux Galates, il n'y a pas un rejet de la grâce flagrant comme ça. C'est vous êtes sauvés par grâce, mais vous devez quand même vous circoncire, appliquer la loi, sinon vous n'êtes pas sûr d'être sauvés. La deuxième, c'est évidemment se priver de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Vous savez, la liberté, elle nous donne surtout de pouvoir choisir d'obéir à Jésus. Donc c'est pas « je dois obéir à Jésus pour recevoir », non, c'est « puisque je suis sauvé par grâce, que j'ai reçu le salut, que j'étais amour de Dieu, je veux vraiment le suivre et avoir une vie qui l'honore ». Il y a une différence entre un « je dois » et « je désire ». Et la troisième, qui est pour à mon avis la plus dévastatrice, c'est de tomber dans le même esprit de jugement que les pharisiens du temps de Jésus, de condamner des personnes avec le discours, de créer des divisions. Et je vais vous donner un exemple qui s'est passé donc publiquement, donc je vous le donne. Vous savez que je travaille à l'église à Ensisheim. Nous avons un frère là-bas qui sanctifie l'église, on va dire, qui a un discours très moraliste. C'est vraiment la loi. Et moi, j'ai été en contact avec deux personnes, un jeune couple. Je les suis en études bibliques depuis plusieurs années. Ils se sont convertis. Hein, c'est des gens vraiment avec qui je suis vraiment devenu ami et tout. Ils sont venus à l'église, mais les discours tellement légalistes de ce frère, ils ont quitté l'église pour aller dans une autre église. Et je peux vous dire que le dernier week-end que j'y étais, j'ai dû régler un conflit. Je déteste faire ça, je préfère envoyer ça à Pascal. Parce que moi, je déteste faire ça. Mais à la base, c'est toujours cet esprit de jugement. C'est cette lecture littérale de la Bible qui donne aux gens d'être des légalistes et de juger les autres sur des attitudes, des détails, des paroles dites que franchement... Donc ce que je vous dis là, je vous promets, c'est la réalité. Et le cinquième, non le quatrième, pardon, on peut éteindre la vie de l'esprit en nous et ne plus entendre la voix de Dieu qui vous parle. Vous pouvez lire la Bible comme un légaliste pour avoir lu votre Bible parce que vous êtes un bon chrétien évangélique, mais vous n'entendez plus ce que l'esprit a à vous dire. Et l'esprit parle de différentes manières. Et quand on a un esprit légaliste, bah bien souvent, on est en même temps tellement rétréci qu'il n'y a plus de place pour la vie de l'esprit. Le cinquième, c'est de devenir un chrétien fade. Et ce n'est pas des fades. Un chrétien fade n'a plus de saveur. Alors que Jésus dit, vous allez devenir le sel de la terre. Mais non, Louise, c'est pas ça, t'as dit vite trop vite, là. T'as trop confiance en Jean-Pierre. Non, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Voilà. C'est pas vous allez devenir, c'est vous êtes. Et si le sel n'a plus de saveur, eh ben, on peut pas le remplacer. Moi, je prends ce texte de dire que nous, on est ceux qui peuvent donner un goût différent au monde dans lequel on vit. Parce que l'esprit vit en nous. Et il n'y a que nous qui pouvons donner un goût différent dans le monde dans lequel on vit. Un monde vraiment fade. Remarquez la richesse du premier verset que je vous ai lu. Galate sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Jésus ne leur a pas été décrit comme un docteur de la loi, comme un super enseignant, alors que c'était un super enseignant qu'avec ses paraboles, il arrivait à accrocher des milliers de personnes. Franchement, c'était extraordinaire. Quand on voit les vérités qu'il y a dans ces paraboles et qui sont dites avec une telle simplicité que tout le monde pouvait repartir chez soi en retenant cette parabole, je trouve ça extraordinaire. Il n'a pas été déclaré, il n'a pas été décrit comme un faiseur de miracles, alors que qui a fait des miracles comme Jésus dans l'histoire? Qui a marché sur l'eau? Qui a arrêté la tempête? Qui a nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons? Personne. Non, Jésus-Christ n'a pas été non plus décrit comme le créateur d'une nouvelle religion. Non, non. Non, il a été décrit comme un crucifié. Un condamné à mort. Il y avait deux manières d'appliquer la peine de mort au temps-là. Si vous étiez citoyen romain, on vous tranchait la tête. C'était quand même plus rapide. Et les esclaves, ceux qui étaient considérés comme le bas peuple et tout, ils étaient crucifiés. Et voilà comment le Sauveur, le Roi des Rois, a été décrit aux Galates, comme celui qui a été crucifié. Le mot qui est employé là pour dire... vous aux yeux de qui? Non. Qui vous a fasciné? On pourrait le comprendre par qui vous a envoûté. Certains disent à la limite, on pourrait employer le mot qui vous a ensorcelé. Comment vous avez pu, vous, aux yeux de qui Christ a été crucifié, vous qui avez commencé par vivre de la grâce, de la liberté, mais comment quelqu'un a-t-il eu ce pouvoir, cette capacité de vous séduire pour que vous fassiez un demi-tour et que vous reveniez vers la loi? Et le but, là, j'ai noté cette chose, c'est que le but de ces chrétiens d'origine juive qui veulent retirer les gens vers eux, c'est pas que les gens ne croient pas, c'est pas de les sortir de la foi même de l'Église, c'est de les empêcher d'obéir à la vérité. Et ici, la vérité, c'est l'Évangile que Paul a prêché. Va nous parler ensuite, Paul il va argumenter un petit peu son discours et il va parler de cette différence entre loi et esprit. On sait que nous avons tous reçu le Saint-Esprit le jour de notre conversion, qu'il œuvre en nous. Hein, on a peut-être, comme les Galates, fait des expériences avec l'esprit, on a peut-être vu des miracles, en tout cas on l'a vu à l'œuvre et la plus belle œuvre de l'esprit, c'est vraiment cette nouvelle naissance et cette transformation qu'il peut avoir dans la vie de quelqu'un. Et ce jour-là, le Christ crucifié, le jour de notre conversion, on a compris le pourquoi il est venu, le pourquoi il a été crucifié. Le message est devenu clair et on a reçu Christ dans notre vie par la foi, tout comme les Galates. Et c'est vrai qu'après avoir eu notre vie transformée, nous avons pu commencer à marcher par l'Esprit, apprendre à le connaître. L'Esprit ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne l'Écriture. Finalement, avec une vie comme ça, une vie conduite par l'Esprit, quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous, ça peut paraître une absurdité de dire « je vais abandonner ça pour me remettre sous la loi et commencer à obéir à des préceptes et commandements qui n'ont plus lieu d'être. » Je vous rappelle que nous avons été scellés du Saint-Esprit. On a déjà réfléchi, l'Esprit qui était là au départ de la création, il vit en nous. Comment vouloir nous priver de la vie de l'Esprit pour appliquer des règles qui deviennent, bien sûr, des règles humaines, des règles qui nous amènent parfois à nous comparer. Pour l'apôtre Paul, c'est vraiment une absurdité. Et après, il va parler de la loi et des promesses. La loi a été donnée par Moïse, mais la promesse que toutes les nations seront bénies au nom de l'Éternel a été donnée à
Abraham.
Mais quand les promesses sont données à Abraham, la loi n'existait pas. Les promesses sont données à Abraham 2000 ans avant Jésus-Christ, la loi à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ. Et il est dit en parlant d'Abraham qu'Abraham crut. Et c'est parce qu'il a cru qu'il a été justifié. Il n'est pas dit qu'Abraham a obéi à la loi puisque la loi n'était pas là. Donc Abraham est vraiment sauvé par grâce et ses œuvres montraient qu'il avait vraiment la foi. Et si on prend Abraham, Isaac, Jacob, ils ont tous cru, ils ont été sauvés par la foi à cette promesse que Dieu a donnée à Abraham. J'espère qu'on est bien conscient. Nous sommes des descendants de cette promesse. Nous sommes des fils d'Abraham. Et nous ne sommes pas des fils de Moïse et des descendants de la loi. Vous le direz au verset 11, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et l'apôtre dira plus loin que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On a beau savoir cela, c'est vrai, il faut dire qu'il est assez difficile de ne pas mettre de règles et de ne pas les observer. C'est difficile de marcher pleinement dans cette liberté. Je parle aussi de cela dans le cadre du salut. Dans nos milieux, c'est sûr, on prêche le salut par la foi, par la grâce. C'est une chose qui est claire dans toutes les confessions de foi évangéliques. On met vraiment la foi, la grâce en avant. Mais après, ce qu'on pourrait dénoncer, c'est la manière de vivre en tant qu'Église. Et je crois vous l'avoir déjà dit, que Yves Garret, un prof de l'Institut, m'a dit « Jean-Pierre, tu auras souvent à prêcher sous la grâce, parce que tu verras, les gens comprennent qu'ils sont sauvés par grâce, et quand ils rentrent dans l'église, ils se remettent sous la loi. » Je ne sais pas si c'est le... Certains disent que c'est notre sentiment de religiosité qui est inscrit dans le cœur de l'homme, qui ressort comme ça. Et c'est vrai qu'assez facilement, il y a des traditions qui s'installent dans le milieu évangélique, qui se transforment en règles, que tout le monde doit observer. Donc le fait de travailler dans plusieurs églises, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ça parce que c'est très riche de voir les différentes manières de comprendre et de vivre l'évangile. Et parfois, dans certaines églises, le port du voile pour les femmes est obligatoire. Et là, franchement, il n'y en a pas une qui a le voile aujourd'hui, je dis rien, mais enfin... Parfois, la scène est donnée uniquement aux baptisés. Et quand Jean-Pierre arrive, qui fait la scène, qui ne sait pas ça, il se fait parfois prendre à la fin. Dans certaines églises, la place de la femme, c'est au fond, et vraiment Rachel, ce matin, osait prendre la parole devant des hommes. Vous voyez, ça vous fait rire, hein, ça me fait plaisir que ça vous fasse rire. Hein. Oui. Combien de jeunes dans les églises évangéliques ont été élevés avec des tu dois et tu dois pas? Combien de personnes ont l'image d'un Dieu un peu gendarme parce qu'on les a toujours fait vivre sous la loi? Combien de jeunes ont rejeté la foi et tout parce qu'on essayait de les mettre dans un carcan? Mais attention de ne pas penser que la loi dans l'Écriture est mauvaise. Paul dira aux Romains, « Ainsi donc la loi est sainte, le commandement est juste et bon. » Un des rôles de la loi est de nous montrer que nous sommes pécheurs, mais aussi, comme il est dit là, de conduire à Christ, est un pédagogue. Dans ce sens-là, on peut affirmer, oui, la loi est bonne, puisqu'elle nous conduit vers celui qui nous délivre de cette loi, de la condamnation. Elle nous conduit vers celui qui a été fait malédiction pour que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre en tant qu'hommes libres. Nous sommes déclarés fils de Dieu par la foi en Jésus, mais pas par l'observation de la loi. Et si quelqu'un essaye d'observer la loi pour être sûr d'être juste devant Dieu, à la fin de sa vie, il n'aura jamais le sentiment d'être juste. Paul dit que nous avons revêtu Christ. Aux Corinthiens, il dira, vous avez été baptisés dans l'Esprit. Hein, c'est toutes des expressions différentes pour parler de notre union avec Christ. Et nous pouvons aussi affirmer qu'on est revêtu de la justice de Christ, couvert par son sang, libéré. Nous formons un peuple uni à Christ. Nous sommes le peuple de Dieu, les héritiers de la promesse faite il y a 4000 ans à Abraham le croyant. Se mettre sous la loi, c'est faire un retour en arrière. C'est oublier le rôle principal de la loi et surtout, c'est ne pas comprendre ces trois paroles que Jésus a dit sur la foi. Tout est accompli. L'apôtre Paul dit pas que la loi est inutile, mais il insiste sur son rôle de guide, et surtout, il insiste sur le fait que Christ étant crucifié, nous sommes libérés de la malédiction de cette loi. J'aimerais terminer par quelques réflexions. Donc je pose la question à vous et à moi. Mais avez-vous une tendance à être un peu légaliste? Si oui, demandez-vous pourquoi? Est-ce que cela vous rassure? Est-ce que ça vient de votre éducation chrétienne ou de votre éducation tout court? Ensuite, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire concrètement pour être libéré? Quel est le chemin à suivre pour être pleinement libéré? Après, je vous lance une idée comme ça. Pourquoi ne pas faire une fois une étude personnelle sur des sujets comme la grâce, l'amour inconditionnel? Sur le pardon, sur le salut par la foi. Quand ces choses sont non seulement comprises, mais quand elles sont vraiment intégrées dans notre vie, vous voyez, et qu'on en vit, alors on devient des chrétiens libres. Peut-être qu'une des choses qui m'aide à marcher dans la liberté, je pense que c'est mon esprit missionnaire. Que pour moi l'important c'est d'aller toucher les gens là où ils sont, c'est ce qui me permet de rentrer dans un troquet avec une douzaine de jeunes parce que mon but c'est d'annoncer l'évangile. Et c'est vrai que c'est, comment je vais dire, ce désir de partager l'évangile, pour moi, m'aide à enlever des barrières et des choses comme ça. Rachel a lu un... Christian a rappelé ce que Pascal a lu sur la femme samaritaine. Mais quand vous regardez ce texte, et que vous voyez tout ce que Jésus a fait, d'aller parler à une femme samaritaine, tout ça, il a bousculé des mentalités, des consciences. Quand vous voyez que les apôtres, quand ils reviennent, ils ne sont pas choqués qu'ils parlent à une samaritaine, alors que samaritain, c'était une insulte, mais ils sont choqués qu'ils parlent à une femme, ils n'osent même pas lui dire, oh, mais qu'est-ce que tu fais là, il parle à une femme, là, il est parfait, ou quoi. Mais oui, mais voilà, il a transformé les mentalités par son attitude. Et si on n'a pas l'esprit missionnaire, on ne peut pas faire ça. Si on n'a pas ce qu'on appelle l'amour pour les perdus, on ne peut pas faire ça. Et qu'on fait ça, il ne faut pas peur aussi de se prendre quelques coups de bâton sur la tête. Hein. J'aimerais vous rappeler, vous relire ce beau verset de la Bible. Se trouve donc dans l'Épître aux Hébreux. Voilà ce qu'il nous est dit. Quel que soit votre état ce matin par rapport à cette prédication, j'aimerais vous rappeler cette belle parole de l'Épître aux Hébreux qui nous dit, Hébreux 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Amen. Je vous invite à un petit moment de silence et aussi à un petit moment de prière. Seigneur Jésus, je veux encore te remercier parce que tu nous as libérés de la malédiction de la loi. Tu as fait de nous tes enfants et nous avons la liberté en toi. Merci Seigneur que tu nous as sauvés par grâce au moyen de la foi et que sur cette croix tu as dit que tout est accompli. Et nous voulons vraiment nous saisir de ces paroles et nous dire que pour notre salut tu as tout accompli, mais aussi pour notre marche dans la sanctification. Car c'est toi, Seigneur, qui par ton esprit nous donne la force, la puissance pour marcher, Seigneur, en obéissant à ta parole. Donne-nous, Seigneur, que d'être vraiment sel de la terre, Seigneur, de ne pas perdre vraiment cette saveur et que les gens qui nous voient vivre, Seigneur, puissent être jaloux des vies que nous avons. Oui, vraiment, Seigneur Jésus, je te prie encore de nous bénir, Seigneur, de nous renouveler, dans la foi, Seigneur, dans notre marche avec toi, que nous puissions vraiment avoir un esprit de persévérance et que nos vies puissent porter du fruit pour que le Père soit glorifié, Seigneur. Amen.
Amen.